Zone de Contact, une émission de Spoutnik Afrique.
Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Spoutnik Afrique depuis Bamako sur les ondes de Maliba FM. Je suis Anthony Lefebvre et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pendant une heure pour un nouveau numéro de mon émission Zone de Contact. Au programme aujourd'hui, l'Afrique du Sud donne des précisions sur la création d'une monnaie commune au BRICS, l'Arabie Saoudite veut réduire ses exportations de pétrole vers les États-Unis et la Russie qui dénonce les propos d'Emmanuel Macron. L'Éthiopie a soumis une demande pour rejoindre les BRICS. L'ambassadeur de ce pays africain en Russie nous décryptera les raisons de cette décision et évaluera la qualité des relations entre Moscou et Addis Abeba. Le Burundi a acquis son indépendance le 1er juillet 1962. Un historien burundais reviendra sur la portée de cette date pour son pays. Une exposition d'artistes russes et africains à Moscou met actuellement à l'honneur l'unité culturelle russo-africaine. La chargée d'affaires de l'ambassade de Madagascar en Russie et un artiste malgache donneront leurs impressions de cet événement, de même que leurs attentes en marge du prochain sommet Russie-Afrique. Il y a 33 ans, le Cameroun est devenu le premier Africain à avoir atteint les quarts de finale de la Coupe du Monde. L'entraîneur soviétique de cette équipe décrira ce parcours historique dans une interview exclusive. Pretoria lève le voile sur les projets d'une création d'une monnaie commune aux BRICS. Lors d'une conférence de presse, le porte-parole de la présidence sud-africaine, Vincent Magwenya, a déclaré que la question d'une monnaie alternative est abordée, non seulement au sein des BRICS, mais aussi par d'autres organisations internationales. Il a ensuite confirmé que lors d'une réunion en marge du sommet de Paris sur un nouveau pacte financier mondial, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a discuté avec son homologue brésilien Lula da Silva d'une monnaie commune. Monsieur Magwenya a précisé que le dossier de création d'une telle devise est assez complexe. Selon lui, l'objectif n'est pas de contrer le dollar, mais d'alléger certains fardeaux que les économies des pays en développement subissent. Pour rappel, le groupe des BRICS, composé du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud, planche non seulement sur la création d'une monnaie commune, mais également sur l'élargissement du groupe des 5 à de nouveaux membres. De nombreux pays, dont certains se trouvent sur le continent africain, ont fait part de leur volonté de rejoindre les BRICS. La Russie a récemment indiqué que l'élargissement des BRICS sera à l'ordre du jour lors du sommet du groupe en août prochain à Johannesburg. L'Arabie Saoudite veut fermer les vannes pour les Occidentaux. Riyad, qui a promis qu'elle réduirait sa production de pétrole de 10% en juillet, pourrait restreindre ses exportations vers les États-Unis selon un média américain. Fait curieux, les Asiatiques ne seront pas touchés par cette réduction de brut. Le géant saoudien Saudi Aramco a promis aux raffineurs asiatiques qu'ils obtiendraient autant de barils qu'ils le demanderaient. Ainsi, ce sont les États-Unis et l'Europe qui vont subir les conséquences de la baisse des exportations saoudiennes de pétrole. Pire, les Occidentaux se retrouveront dans une situation inconfortable avec les sanctions qu'ils ont imposées sur le pétrole russe en s'interdisant de l'acheter à Moscou. Fait intéressant, l'Arabie Saoudite dispose d'un moyen de pression sur les raffineurs. Saudi Aramco contrôle la plus grande raffinerie des États-Unis, Motiva Enterprise, qui est capable de traiter environ 630 000 barils par jour. Située à Port Arthur, au Texas, elle représenterait à elle seule près de 45% du brut saoudien importé aux USA lors du premier trimestre de l'année 2023, selon des données gouvernementales. Pour rappel, cette réduction de production saoudienne d'or noir s'inscrit dans un contexte de tensions diplomatiques entre Riyad et Washington. En octobre dernier, le président américain Joe Biden avait averti Riyad qu'une baisse de la production de pétrole aurait des conséquences. Le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman n'avait pas apprécié la déclaration du locataire de la Maison-Blanche et menaçait de revoir les relations américano-saoudiennes si Washington ripostait aux décisions de Riyad. Cette remise en cause est déjà perceptible. Riyad s'est rapproché des BRICS en demandant son adhésion au groupe et s'est rapproché de son vieux rival iranien. Une récente interview d'Emmanuel Macron n'est pas passée inaperçue à Moscou. Le président français avait qualifié la Russie d'être une des seules puissances coloniales du XXIe siècle et de puissance de déstabilisation de l'Afrique. La porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, Maria Zakharova, a estimé que de telles tirades semblent inappropriées compte tenu du rôle discutable que joue depuis longtemps la France en Afrique. Elle a ajouté qu'aujourd'hui, Paris cherche encore à exploiter les ressources du continent en masquant ses méthodes et ses projets néocoloniaux par une rhétorique mensongère et un souci imaginaire du bien-être des Africains. Madame Zakharova a ensuite enfoncé le clou en dénonçant le fait que tout en prétendant être un champion du droit international et de l'intégrité territoriale des États, la France continue de détenir illégalement les terres d'autrui. Pour étayer son propos, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe a rappelé le mépris obstiné par Paris des décisions de l'Assemblée générale de l'ONU sur le droit de l'Union des Comores sur l'île de Mayotte, ainsi que des différends en cours avec Madagascar sur les îles Éparses ou encore avec l'île Maurice pour l'île de Tromelin. Elle a ensuite rappelé que la France refuse de reconnaître sa responsabilité dans les crimes de guerre et les essais nucléaires en Algérie, ainsi que dans l'agression contre la Libye en 2011. Maria Zakharova a conclu en disant que Paris tente de rejeter la responsabilité des conséquences de ses propres actions criminelles sur les États africains, comme c'est le cas avec le Mali. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, je vous confirme que vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique. Bienvenue à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. L'Éthiopie a présenté une demande pour rejoindre les groupes des BRICS, a annoncé ce jeudi le ministère éthiopien des Affaires étrangères. Selon le porte-parole de la diplomatie éthiopienne, Meles Alem, Addis Abeba espère que le groupe donnera une réponse positive. L'éventuel élargissement doit être au menu du sommet des BRICS fin août. Plus d'une vingtaine de pays ont déjà fait part de leur intérêt pour les travaux du groupe des 5 et plusieurs tapent fort à la porte. Mais avant de pouvoir accepter de nouveaux membres, les BRICS doivent d'abord mettre au point des critères de candidature, a expliqué à Spoutnik Pavel Kniaziev, ambassadeur itinérant du ministère russe des Affaires étrangères et sous-sherpa des BRICS pour la Russie. Mi-juin, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov avait déjà rappelé qu'il existait une règle de consensus au sein des BRICS, soulignant que le groupe avait déjà lancé une procédure de concertation à propos de son élargissement. Moscou a par ailleurs suggéré que les pays ayant pris des sanctions abusives contre la Russie ou d'autres États ne puissent pas être intégrés au groupe. L'Éthiopie n'a jamais soutenu de telles sanctions. D'autant plus qu'à une époque, l'Occident a tenté de mener une politique similaire à l'encontre d'Addis Abeba, ancien gérant dans les affaires intérieures de l'État. La Russie avait alors défendu le pays africain et s'était opposée aux sanctions. Les autorités éthiopiennes ont déclaré à plusieurs reprises qu'Addis Abeba continuerait à commercer et à renforcer ses relations avec Moscou en dépit des pressions occidentales. Les contacts de l'Éthiopie avec la Russie se sont même intensifiés ces derniers mois. Sergueï Lavrov a visité ce pays africain et des fonctionnaires éthiopiens, dont le président de la Chambre haute du Parlement, ont quant à eux fait le déplacement en Russie. Au micro de Spoutnik Afrique, Cham Ougla Ouryat, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Éthiopie en Russie, a commenté l'intensification des rapports diplomatiques de son pays avec la Russie dans une interview exclusive. L'entretien a eu lieu même avant l'annonce officielle de la volonté de l'Éthiopie de rejoindre les BRICS, mais le diplomate a déjà clairement exposé les raisons de la décision de son pays. Écoutons-le tout de suite. Monsieur l'ambassadeur, de nombreux pays africains, notamment l'Algérie et l'Égypte, souhaitent désormais interagir avec les BRICS. Depuis 2020, les BRICS devancent le G7 en termes de contribution à la croissance économique mondiale. Selon vous, quelle est la raison de cet intérêt accru pour les BRICS et comment voyez-vous les relations entre l'Éthiopie et les BRICS à l'avenir ?
Je ne vois pas les choses uniquement d'un point de vue économique. Je pense qu'il y a aussi un aspect politique. Depuis la fin de la guerre froide, le système multilatéral est confronté à des défis croissants. Alors que quelques pays puissants deviennent de plus en plus dominants en termes de puissance militaire et économique, de nombreux pays dans le monde ont commencé à remettre en question l'efficacité des Nations Unies et de ses agences. La tendance de quelques nations puissantes à agir unilatéralement a encouragé les nations qui sont restées fidèles aux valeurs du multilatéralisme à chercher d'autres moyens de coopération. La raison principale pour laquelle de nombreuses nations à travers le monde manifestent leur intérêt pour rejoindre les BRICS est très simple. Les nations ne sont pas satisfaites du système unilatéral dans lequel les puissances militaires et économiques font des brimades et s'immiscent dans les affaires intérieures des nations dites faibles. De plus, ce bloc regroupe les populations et les économies qui connaissent la croissance la plus rapide au monde aujourd'hui. Je pense donc qu'il est naturel pour les autres nations de travailler avec l'organisation, parce qu'elles n'en tirent pas seulement des avantages économiques, mais aussi parce que les valeurs et le principe du multilatéralisme y sont présents. Les nations des BRICS encouragent le retour aux valeurs et aux principes du multilatéralisme et la promotion de la croissance économique pour les pays moins développés. Elles veulent rendre le développement dans le monde plus équilibré. L'Éthiopie a donc l'intention de collaborer avec les BRICS.
Notre entretien a lieu après la rencontre de Vladimir Poutine avec une délégation africaine à Saint-Pétersbourg pour discuter d'une initiative de paix sur l'Ukraine. Comment évaluez-vous les résultats de cette rencontre et que pensez-vous des perspectives d'avenir de cette mission qui entend continuer à travailler sur la résolution du conflit ?
Je pense que c'est la première fois que des dirigeants africains se rendent au-delà des frontières du continent pour chercher une solution à un conflit. À mon avis, l'effort fourni par la mission doit être apprécié à sa juste valeur. Cette mission de paix a été soutenue par l'Union africaine et les 7 dirigeants africains représentent, je pense, l'ensemble du continent. C'est impressionnant, mais il serait irréaliste de s'attendre à un résultat immédiat. La première rencontre de la mission avec les dirigeants des partis en conflit visait à comprendre leur point de vue. Les membres de la mission se sont rendus à Kiev et se sont entretenus avec le président Zelensky. Puis ils sont venus en Russie et ont rencontré son Excellence, le président Vladimir Poutine, à Saint-Pétersbourg. La mission a présenté sa proposition et les deux parties l'examineront attentivement et présenteront leurs perspectives respectives pour résoudre le conflit. Comme vous le savez peut-être, l'Afrique est l'une des régions du monde les plus touchées par les sanctions imposées à la Russie à la suite du conflit en Ukraine, ce qui se traduit par une perturbation de l'accès des céréales et des engrais au marché mondial. À cet égard, il serait naturel que les Africains fassent leur part pour mettre fin à ce conflit, en s'efforçant au maximum de convaincre les deux dirigeants de s'asseoir à la table des négociations.
Lors des pourparlers avec les dirigeants africains, le président russe a affirmé que seuls 3% des 31,7 millions de tonnes de céréales parviennent aux pays africains les plus pauvres. Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que l'accord céréalier pourrait prendre fin le 18 juillet. Entre-temps, les chaînes logistiques de livraison de céréales et d'engrais ont été perturbées depuis l'imposition des sanctions occidentales. En avez-vous ressenti les conséquences et quelles sont les solutions possibles au problème ?
L'accord céréalier est censé permettre aux céréales et aux engrais d'être acheminés vers le marché mondial. Cet accord, signé par la Russie et l'Ukraine avec les Nations Unies et la Turquie en 2022, visait à reprendre les expéditions de céréales pour tenter d'atténuer la crise alimentaire mondiale. Il était censé être destiné aux pays pauvres, dont la plupart étaient des pays africains. Mais lorsqu'il a été ouvert, nous n'avons pas reçu la quantité de céréales que nous étions censés recevoir. Je pense donc que nous devons y travailler, car il ne s'agit pas d'un problème qui touche quelques individus ou quelques pays, c'est un problème du monde entier. Nous avons constaté que la perturbation des chaînes logistiques de livraison de céréales et d'engrais a affecté des millions de personnes dans le monde. Et nous, en Éthiopie, nous avons vraiment besoin d'engrais pour notre agriculture. Nous approchons de la saison des plantations. Il est donc impératif que toutes les parties prenantes parviennent à un accord commun pour résoudre ce problème à l'amiable par le biais de négociations pacifiques dans l'intérêt des personnes souffrant de pénurie alimentaire dans le monde entier. Les denrées alimentaires et les engrais devraient être écoulés sur le marché mondial comme cela a été négocié en Turquie l'année dernière.
Récemment, la Russie a annoncé qu'elle apporterait une aide alimentaire de 10 millions de dollars à 4 pays africains par l'intermédiaire d'agences des Nations Unies. L'Éthiopie figure parmi ces pays. Comment évaluez-vous la nécessité d'une telle aide ?
J'applaudis vraiment l'initiative du gouvernement russe. Je l'ai appris par un communiqué de presse publié par l'ambassade de Russie en Éthiopie. Je pense que la décision prise par le gouvernement russe doit être appréciée, car il y a beaucoup de réfugiés et de personnes déplacées en Éthiopie. Pour moi, aider les personnes qui ont besoin d'assistance est un acte sacré d'humanité.
Selon Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, la Russie et l'Éthiopie ont traditionnellement des positions concordantes et très proches sur les principaux problèmes régionaux et internationaux, ajoutant que la Russie a réaffirmé son ferme soutien aux efforts du gouvernement pour stabiliser la situation dans la région. Selon vous, comment la Russie pourrait-elle contribuer à la sécurité dans la région ?
La Russie a collaboré avec l'Afrique dans la lutte commune pour la décolonisation et l'indépendance des États africains. À mon avis, le rôle que joue la Russie pour stabiliser la sécurité dans le monde est très impressionnant. Je pense que la Russie pourrait contribuer à la stabilisation dans notre région de plusieurs façons. Elle pourrait aider à établir une communication régulière entre les forces de l'ordre et les services spéciaux de la Fédération de Russie et les États de notre région, à coordonner les efforts et à partager les expériences dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme, à poursuivre une coopération étroite pour résoudre et prévenir les conflits, à renforcer la coopération dans le développement de la consolidation de la paix après les conflits, et ainsi de suite.
Le barrage de la Grande Renaissance éthiopienne est l'un des points sensibles de l'Afrique. Quel est le statut actuel de ce problème ?
Des négociations trilatérales dirigées par l'Union africaine sont en cours entre l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte. Le gouvernement égyptien a porté cette question lors du 32e sommet de la Ligue arabe. Nous ne sommes pas satisfaits de cette démarche, car il s'agit d'une question africaine. L'eau du Nil appartient aux Africains. Nous ne voyons pas pourquoi les problèmes africains dont s'occupe l'Union africaine pourraient être considérés comme des questions relevant de la Ligue arabe. Ce serait improductif. Nous espérons que les nations amies nous soutiendront.
Et je voudrais vous poser une autre question importante et cruciale. Quelle est la situation du Tigré aujourd'hui ?
Vous savez qu'il y a eu un conflit dans le nord de notre pays pendant 2 ans. Il a été résolu par des négociations qui ont abouti à la signature d'un traité de paix en Afrique du Sud. Sa mise en œuvre est en cours. Les écoles et les services sociaux fonctionnent déjà dans le Tigré. Mais il y a eu beaucoup de dommages dans le Tigré ainsi que dans l'Afar et l'Amara. Ce sont trois régions qui ont été durement touchées par le conflit. J'espère que des pays amis comme la Russie nous viendront en aide.
Il ne reste plus qu'un mois avant le sommet Russie-Afrique. Selon le président de la Chambre de la Fédération éthiopienne, Agnenehu Teshager, l'Éthiopie enverra une délégation de haut niveau pour participer au sommet. Qu'attendez-vous de cet événement? Du point de vue de l'Éthiopie, quelles sont les questions prioritaires qui devraient être soulevées au cours des discussions? Le Premier ministre prévoit-il de participer au sommet?
Je pense que personne ne doutera des paroles de l'honorable Agnenehu Teshager, qui est l'un des plus hauts responsables du gouvernement éthiopien. Il est certain que l'Éthiopie enverra une délégation de haut niveau pour participer au sommet. Toutefois, il serait prématuré de déclarer si notre Premier ministre viendra ou non à ce moment-là. Du point de vue de l'Éthiopie, l'Afrique attend beaucoup plus du deuxième sommet Russie-Afrique. Le monde est en train de changer à cause des sanctions imposées à la Russie, et la Russie cherche à travailler avec les Africains, les Asiatiques et les Latino-Américains. Je pense donc qu'il est grand temps pour la Russie de venir en Afrique et de travailler sur les questions économiques. Je m'attends donc à ce que le sommet ouvre la voie à une coopération politique solide, qu'il aborde les questions de sécurité à travers le monde, qu'il conjugue les efforts pour promouvoir le commerce, les investissements et le développement durable, et qu'il facilite la coopération dans les domaines de l'éducation, de l'énergie, de la science et de la technologie.
C'était Cham Ugala Ouryat, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Éthiopie en Russie pour Sputnik Afrique. Il a commenté la volonté d'Addis Abeba d'adhérer aux BRICS, l'intensification des contacts entre son pays et la Russie et le rôle que pourrait apporter Moscou dans le domaine sécuritaire en Afrique. Chers auditeurs, le moment est venu pour nous de marquer une courte pause. A tout de suite sur Maliba FM. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous écoutez Sputnik Afrique depuis Bamako sur 99.5 FM. Bienvenue à vous si vous venez tout juste de nous rejoindre. Le 1er juillet 1962, le Burundi a proclamé son indépendance. Fondé au XVIIe siècle, le royaume du Burundi était indépendant jusqu'en 1890. À partir de cette date, les Allemands et les Belges ont successivement colonisé le pays. En 1959, le roi Mwami Mwambutsa IV a demandé l'indépendance du Burundi vis-à-vis de la Belgique et la dissolution de l'Union Rwanda-Urundi. La Belgique a lâché du lest en créant deux partis politiques. L'Union pour le Progrès National, un parti multiethnique, et le Parti chrétien-démocrate, soutenu par la Belgique. En septembre 1961, des élections législatives se sont tenues et l'Union pour le Progrès National a été choisie par une large majorité de Burundais en remportant 58 des 64 sièges de la nouvelle Assemblée. Un mois plus tard, le prince Louis Rwagasore a été assassiné par Jean Kageorgis, un jeune grec qui aurait été engagé par les Belges pour se venger de leur défaite dans les urnes. Extradé en Belgique, Kageorgis a été exécuté le 30 juin 1962, la veille de l'indépendance burundaise. Peu après s'être libéré du joug colonial belge, le Burundi a démarré très rapidement des relations diplomatiques avec l'URSS. Celles-ci ont été établies le 1er octobre 1962. L'axe majeur de cette coopération entre les deux pays est encore aujourd'hui le domaine de l'éducation. Depuis l'établissement des relations diplomatiques russo-burundaises, plus de 2500 citoyens burundais ont fait leurs études en URSS ou en Russie. Au micro de la correspondante de Sputnik Afrique, l'historien Melchior Mukuri, professeur à l'Université du Burundi, directeur de centre de recherche et d'études sur le développement des sociétés en reconstruction, est revenu sur la portée de cet événement historique. Écoutons-le.
Il y a 61 ans, le Burundi a obtenu son indépendance. Comment cette date a changé la vie des Burundais et qu'est-ce qui a poussé le plus le peuple de lutter pour son indépendance?
Comme vous venez de le dire, le Burundi a acquis son indépendance le 1er juillet 1962. Il a ainsi accédé à son autonomie. Évidemment, à ce sujet, il faut se rappeler que le Burundi venait de passer presque un demi-siècle sous domination étrangère, domination d'abord étrangère allemande à partir de 1903, domination belge qui a commencé avec l'occupation militaire de 1916 pendant la Première Guerre mondiale. Et puis après, il y a eu en 1924 la Belgique qui a accepté le mandat de diriger le Rwanda-Urundi en tant que puissance mandataire. En 1946, c'était la tutelle de la Belgique. Et cette tutelle a été combattue et par notamment les partis politiques. Et c'est à cette époque-là, à partir des années 1959, avec, après la mise en place des groupes de travail pour l'étude du problème politique du Rwanda au Burundi, où on a vu qu'il y a des formations politiques qui sont nées et qui ont commencé à revendiquer l'indépendance du Burundi. Évidemment, à ce sujet, il faut se rappeler que cette année-là, les années, le début des années 60, c'était la marche des pays africains vers l'indépendance. Il y avait des revendications qui se passaient à grande échelle. Et le Burundi est entré dans ce mouvement-là. Et on doit reconnaître aussi que l'Organisation des Nations Unies a joué un rôle important pour que ce pays puisse devenir indépendant. Je rappellerai pour mémoire que ce n'est pas seulement pour le Burundi où les Nations Unies ont joué un grand rôle pour réclamer l'indépendance des pays. Et je crois que c'est un rôle qu'il a beaucoup joué pour beaucoup, beaucoup de pays. Donc, comme je le disais, le Burundi a acquis sa souveraineté le 1er juillet 1962. Et il était dit, et à part ça, ce qui a changé, c'est que le pays était dirigé par ses fils et ses filles. Et il y avait certaines contraintes coloniales qui avaient disparu. Je citerai à titre d'exemple les corvées, les travaux forcés et autres travaux de mobilisation qui empêchaient la population burundaise de vaquer à ses activités. Et parfois, cette mobilisation de la force de travail pouvait conduire à des disettes ou des famines. Ça, c'est pour vous dire que quand même, la vie des Burundais a changé avec cette acquisition de l'indépendance de leur pays. Et justement, quand je dis travail forcé, c'est que l'administration coloniale avait, dans sa politique, initié des travaux qu'elle faisait faire par la population de façon obligatoire. Je citerai par exemple le traçage des routes ou des travaux où on devait aussi aller aux travaux des concessions, des infrastructures publiques. Et cela sans être parfois monnayé. Il y avait aussi le portage des bagages qui était forcé. Mmh. Donc, de cette manière-là, c'était une mobilisation qui pouvait prendre une partie de ce qu'ils appelaient les hommes adultes valides, c'est-à-dire les hommes qui avaient de la force pour travailler. Et cela a parfois gêné perturbé les activités auxquelles vaquait normalement la population burundaise. Je dirais par exemple qu'en 1943, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une disette qui a frappé fort la population burundaise. Et cette famine de code principal, c'était essentiellement les travaux forcés, les travaux de mobilisation pour la population. Les gens n'avaient plus le temps de pouvoir vaquer à les activités agricoles. Ceux qui ne partaient pas travailler à ces chantiers, ils devaient fuir, ils devaient se cacher ou ils devaient même s'exiler, notamment dans les territoires de l'Afrique orientale qui étaient dirigés par la Grande-Bretagne. Donc, on sait que, par exemple, il y a eu une émigration de la population vers les pays de l'Afrique orientale parce que dans ces zones-là, il n'y avait pas ce genre de travail.
Et vu que nous parlons aujourd'hui de l'indépendance du Burundi, que signifie pour vous cette date, le 1er juillet?
Vous savez que certains pays africains ont acquis l'indépendance après avoir mené des guerres sanglantes. Mm-hmm. Et le Burundi qui a accédé à son indépendance le 1er juillet, il a accédé, je dirais, dans la joie et dans la paix. Même si le leader de l'indépendance nationale, le fils du roi de l'époque, du roi Mambusa, le prince Louis Gwagasore, avait été assassiné le 13 octobre 1961. Mmh. Cette indépendance a été acquise sans beaucoup de brutalité. Et contrairement à à ce que je disais se passait dans d'autres pays africains. Et le Burundi, quand il y a eu l'indépendance, les coopérants belges qui étaient au Burundi n'étaient pas inquiets pour leur vie. Il n'y avait d'ailleurs aucune menace à leur endroit. Donc, c'est pour dire que vraiment l'accès du Burundi à l'indépendance s'est passé vraiment dans la paix. Et je crois que c'est un grand succès que l'on doit souligner et qui, me semble-t-il, fait l'honneur, si je me permets l'expression, de la population burundaise. Parce que vraiment, il n'y a aucune brutalité, aucune personne étrangère, notamment belge ou autre, a été menacée à cette occasion. Donc, ça c'est pour dire que quand même, c'est un grand succès que le Burundi a fait ce jour-là, au moment où il y a eu changement de structure politique, et je dirais même de système politique, dans la gestion de ce pays.
Et quel est le plus grand succès du peuple burundais vous pouvez nommer après qu'ils ont obtenu leur indépendance?
Pour le peuple burundais, après l'indépendance, je crois que le plus grand succès que l'on puisse dire, c'est que quand même les Burundais ont pu avoir des dirigeants qui sont burundais. Et aussi, les Burundais ont eu à gérer leur pays. Évidemment, on doit reconnaître que même si ce sont des Burundais qui gèrent ce pays, des problèmes ne manquent pas. Des problèmes ne peuvent pas manquer. Il y a eu certaines difficultés qui sont apparues après l'indépendance du Burundi, alors qu'avant, il n'y en avait pas. Et cela, l'erreur, évidemment, est à mettre non pas au niveau, je pense, de l'ancienne puissance coloniale. Les Burundis ont une part de responsabilité dans ce sens-là. Mais quand même, on doit reconnaître qu'ils ont quand même géré leur pays, même si des problèmes n'ont pas manqué ici et là.
Et est-ce qu'à votre avis, après plus de 60 ans d'indépendance, les Burundais ont réussi à prendre leur destin en main?
Je pense que les Burundais sont arrivés à gérer le pays, même si des problèmes ne manquaient pas. Je crois qu'on peut reconnaître qu'ils ont réussi à gérer ce problème-là.
Et bon, parler un peu aussi de la Russie, vu que la Russie est depuis longtemps un partenaire du Burundi. On a vu que M. Lavrov, il est venu avec une visite dans votre pays aussi assez récemment. Et donc, les relations diplomatiques entre la Russie et le Burundi ont été établies il y a 60 ans aussi. On a déjà une histoire, on peut dire, diplomatique dans ce sens. Et donc, dans quel domaine de coopération, à votre avis, y a-t-il le plus de perspectives pour nos deux pays à développer leur relation?
Il me semble que la coopération, comme vous le dites, entre le Burundi et la Russie, via à l'époque l'URSS, dans les années 1962, il y a eu de quoi signature de communiqué prévoyant la coopération, déjà même à partir de 1962. Donc, comme vous le dites, il y a plus de 60 ans. Je crois que le premier chef de fer de ce pays a été accrédité au Burundi au début de l'année 1963, exactement le 6 février 1963. Et donc, d'accord, la coopération entre le Burundi, disons ici, et la Russie est très ancienne. Et parmi les secteurs qui sont les plus, me semble-t-il, les plus dynamiques, il y a l'enseignement. Il y a l'enseignement où des Burundais ont été formés dans ce pays, que ce soit niveau premier, deuxième ou troisième cycle, ont été formés dans ce pays, notamment au niveau de différentes sciences, des médecins, mais je crois aussi qu'il y avait même une coopération militaire avec son pays. Donc, ce qui fait que la coopération avec la Russie est très agissante. Et il me semble aussi que ces derniers temps, même je crois au début de cette année, je crois que le ministre russe des Affaires étrangères a effectué une mission au Burundi et il a affirmé que les relations entre le Burundi et son pays vont continuer de se développer. Et d'ailleurs, il me semble que ce pays a prévu un certain nombre de bourses pour les étudiants burundais. Ceci pour dire que quand même, qu'on voit que la coopération entre la Russie et le Burundi est pour le moment agissante.
C'était Melchior Moukouri, historien burundais pour Spoutnik Afrique. Au micro de notre correspondante, il est revenu sur 61 ans d'indépendance du Burundi et sur la portée de cette date pour son pays.
Suivez Spoutnik Afrique sur Maliba FM. Du lundi au vendredi à 19h, Spoutnik décryptera l'actualité africaine et internationale dans ses émissions Zone de Contact et Afrique en Marche. Politique, économie, défense, diplomatie. Des spécialistes de renom vous donneront une vision alternative à celle proposée par les médias mainstream. Du lundi au vendredi à 19h sur Maliba FM.
De retour à Bamako sur les ondes de Maliba FM, vous écoutez Spoutnik Afrique et l'émission Zone de Contact présentée par Anthony Lefebvre. Je vous salue si vous venez tout juste de nous rejoindre à l'instant. En marge du sommet Russie-Afrique, une exposition artistique intitulée « Russie-Afrique, unité culturelle » se tient actuellement à Moscou jusqu'au 20 juillet. Les toiles d'artistes africains et russes y sont exposées. L'Afrique est représentée par des peintres venus du Ghana, d'Éthiopie, d'Ouganda, de Madagascar, du Nigeria, du Bénin, d'Angola et du Burkina Faso. Cette mise en lumière de l'art africain en Russie n'est pas passée inaperçue auprès des diplomates africains. À notre micro, Judith Denise Tafangui, la chargée d'affaires de l'ambassade de Madagascar en Russie, s'est félicitée de la participation d'un de ses compatriotes à cet événement. Écoutons-la tout de suite.
Qu'est-ce que ça signifie pour vous, cette participation des artistes malgaches dans une exposition en Russie ?
Tout d'abord, voir un malgache participer à un événement d'une envergure, je dirais, importante comme ça, c'est déjà une fierté pour notre pays. Mais encore, l'artiste malgache, pauvre, c'est un malgache, mais à la fois il est russe. Donc ça renforce encore d'autant plus notre relation avec la Russie.
Et dans quel domaine vous pensez, vous voyez plus de perspectives de nos relations entre la Russie et Madagascar? En général, quel domaine vous aurez nommé?
Vous savez, Madagascar, c'est un pays qui est ouvert dans plusieurs domaines. Nous ne sommes pas limités dans un tel ou tel domaine. Nous sommes ouverts dans toutes sortes de coopérations, je veux dire une coopération multiforme, si on peut le dire ainsi, que ce soit dans le domaine de transport, domaine culturel, domaine d'éducation.
Comme vient de nous le rappeler la chargée d'affaires de l'ambassade de Madagascar en Russie, son pays est représenté à cette exposition par Christophe Rabé-Arivello, dit Fofa, artiste malgache installé depuis plus de 20 ans à Saint-Pétersbourg. Au micro de la correspondante de Spoutnik Afrique, il a partagé ses attentes en marge du forum Russie-Afrique.
Dans le cadre de cette exposition, il y a aussi votre exposition personnelle. Donc, qu'est-ce que ça signifie pour vous de faire cette exposition personnelle en Russie ?
Pour moi, c'est peut-être, avec le temps qu'on vit aujourd'hui, c'est le grand moment de bouger, de faire quelque chose, en fait, de changer les choses. Parce que je pense que il y a la folie du monde. Le monde est en folie, donc l'Afrique toujours oubliée, l'Afrique toujours pauvre, veut se faire enfin, comprendre finalement, en fin de compte. Et c'est par là, par les relations artistiques, par les expositions, qu'on peut déjà engrainer quelque chose. Et à partir de ça, il y a des relations, donc tu peux être avec enfin, les économistes. Il y a beaucoup de gens ici qui veulent travailler avec les Africains à partir des choses comme ça. Donc, il y aura aussi le sommet russe-africain. Et je tiens beaucoup que les dirigeants africains y viennent, puisque c'est important. Pour moi, Madagascar, enfin, il est toujours sous la protection française, excusez-moi, mais c'est la triste réalité. Donc, J'aimerais bien que les pouvoirs, enfin, qui vont venir, puisqu'à chaque fois, tous les 5 ans, chez nous, c'est le changement, c'est les coups d'État. Ça n'arrive à rien. On est en premier dans la dernière liste des pays les plus pauvres, alors que Madagascar est un pays très riche. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, voilà, j'aimerais bien que l'État malgache change un peu sa façon de vivre, d'analyser les choses et de travailler en gagnant-gagnant. Mais pas juste arrêter et attendre ce que les autres pays, mon pays, vous donnent gratuitement avec plus de...
Vous avez mentionné la France. Et quelle est l'image de la France aujourd'hui dans la population malgache?
La France, c'est toujours la France, la mère patrie pour beaucoup de malgaches, parce que la France, c'est l'exemple de réussite. Aller en France, c'est toujours... ce que beaucoup de gens rêvent jusqu'à présent, puisque c'était en France, tu peux, avec peu de talent que tu as, peu de savoir, tu peux gagner ta vie, enfin plus que ceux qui les ingénieurs ou bien les ministres à Madagascar. Et voilà, tu vois les différences.
Et pour les relations entre la Russie et Madagascar, comment vous les voyez aujourd'hui? Quels domaines ont plus de perspectives, à votre avis, de se développer entre nos pays?
Madagascar est un, comme vous voyez sur mes toiles, c'est un pays, c'est très joli. En premier, c'est très joli. Donc, c'est sur la voie touristique avec les Russes. Enfin, les Russes sont les plus grands touristes, je veux dire, au monde. Donc, avec les Russes, Madagascar peut faire, enfin, investir dans le tourisme avec les Russes, construire des infrastructures, les routes et tout. Parce que...
Et ce lundi, Madagascar a fêté la journée de l'indépendance. Donc, que cette date signifie pour vous? Le 26 juin.
Journée de l'indépendance. Il y avait un mot que j'ai créé, journée d'indépendance, mais sans souveraineté encore. Il faut être souverain pour fêter une grande fête d'indépendance.
Et qu'est-ce que vous voulez dire par vos tableaux aux Russes et aux Africains? Est-ce que ce sont les mêmes choses ou vous voulez dire des choses différentes?
Non, je représente juste pour moi ce qui est beau. Mmh. Oui, ce qui est beau, c'est les relations culturelles que j'ai dedans, enfin la France, enfin la Russie et l'Afrique, Madagascar.
C'était Christophe Rabé-Arrivello, dit Fofa, artiste malgache pour Spoutnik Afrique. À notre micro, il a décrit ce que représentent ces tableaux et exprimé ses attentes en marge du sommet Russie-Afrique. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, je vous confirme que vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique. Bienvenue à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. En 1990, la Coupe du monde de football se déroulait en Italie. Si sa finale entre l'Argentine et l'Allemagne de l'Ouest n'est pas restée dans les mémoires, un pays africain y a particulièrement brillé. Il s'agit du Cameroun qui comptait dans ses rangs la légende Roger Milla, surnommé le Vieux Lion. Les Lions indomptables ont frappé fort d'entrée lors du match d'ouverture en battant l'Argentine de Diego Maradona, championne du monde en titre, sur le score d'un but à zéro. Qualifiés pour le second tour de la compétition, ils ont battu en huitième de finale la Colombie, devenant au passage la première nation africaine à atteindre les quarts de finale. Ils ont hérité de l'Angleterre de Gary Lineker au tour suivant. Malheureusement, le parcours des Camerounais s'est arrêté face aux Anglais au terme d'un match spectaculaire à l'issue des prolongations. C'est suite à ce parcours que la FIFA a décidé d'élargir le nombre de sélections nationales africaines participant à la Coupe du Monde. Il est passé à 3 participants en 1994 lors du Mondial américain, avant de passer à 5 sélections africaines lors de la Coupe du Monde 1998 en France. Derrière cette épopée camerounaise historique se cache l'empreinte indélébile d'un sélectionneur soviétique. Il s'agit de Valéry Nepomniachtchi, qui officie alors sur le banc de touche des Lions indomptables. En exclusivité pour Spoutnik Afrique, Monsieur Nepomniachtchi est revenu sur le parcours de son équipe et nous a livré les secrets qui se cachent derrière cet exploit qui figure en bonne place dans l'histoire du football. Écoutons-le tout de suite. Il y a 33 ans, en juin 1990, lors de la Coupe du Monde en Italie, vous et l'équipe camerounaise avez fait sensation en battant dès le premier match l'Argentine de Diego Maradona, alors championne du monde en titre. Comment vous êtes-vous préparé pour ce match? Et quel a été, selon vous, le secret de cette réussite?
En fait, 33 ans se sont écoulés.
mais les souvenirs sont encore frais. La préparation a été très aventureuse. C'est toute une histoire. Le fait est que lorsque nous avons quitté le Cameroun pour un camp d'entraînement en Yougoslavie un mois avant la Coupe du Monde, mon équipe était composée de 11 joueurs amateurs, car il n'y avait pas de championnat professionnel au Cameroun à l'époque. Certes, la moitié des joueurs avaient déjà joué en Europe en tant que professionnels, mais un seul de ces 11 joueurs évoluait en première division du championnat de France. Tous les autres jouaient en deuxième division en France ou en Espagne. Ma tâche consistait donc à préparer l'équipe psychologiquement sans trop de stress, afin qu'elle n'ait pas peur de jouer contre le champion du monde en titre. En ce sens, il n'y a pas eu de problème particulier. Quant au plan de jeu, la tâche des footballeurs était de jouer le plus serré possible, le plus dur possible, car nous savions que les Argentins ne seraient pas prêts pour un match aussi difficile et dense. Que représentait l'équipe du Cameroun pour eux ? Même si, d'un point de vue footballistique, c'était une équipe sérieuse, parce que le football est le sport numéro 1 au Cameroun, en résumé, nous avons réussi à imposer notre jeu. Nous avons joué serré, dur, parfois même, je dirais, brutal. Et pour cause, nous avons reçu 2 cartons rouges dans ce match. Et bien sûr, la chance nous a aussi souri. Le but marqué par François Omam Biyik est une curiosité, le gardien a concédé un but facile. Mais d'un autre côté, il s'agissait d'un coup de tête inattendu. Omam Biyik a réussi à marquer dans une situation compliquée. Voici en gros comment j'expliquerais cette sensation.
Après avoir battu la Roumanie, l'équipe nationale du Cameroun a affronté l'URSS lors de la dernière journée des matchs de groupe. Qu'est-ce que ce match contre l'URSS a eu de particulier pour vous ? Et quelle était l'ambiance au sein de l'équipe et de l'encadrement ?
L'atmosphère était vraiment difficile. D'habitude, j'annonce la composition de l'équipe aux joueurs la veille du match. Cela s'explique par le fait qu'après avoir annoncé l'équipe, il fallait parler à presque tous les joueurs pour leur expliquer leurs tâches. J'ai donc annoncé la composition de l'équipe, ce qui a permis à 4 joueurs de l'équipe de départ, qui jouaient contre l'Argentine et la Roumanie, de se reposer. Et soudain, je reçois un coup de téléphone au milieu de la nuit de la part du président. On m'a dit que le gouvernement du pays comprenait parfaitement mes arguments, pourquoi j'ai remplacé tel ou tel joueur pour donner du repos ou éviter le risque de recevoir un deuxième carton jaune, mais que le public ne me comprendra pas. On dira que nous faisons exprès de perdre le match face à l'Union soviétique, qui avait encore une petite chance de se qualifier pour la phase suivante. Le Cameroun avait déjà résolu ce problème et l'équipe nationale de l'URSS devait gagner, et avec un score important, et même espérer que les Roumains battent l'Argentine. En résumé, on m'a conseillé de ne pas procéder à ces changements brusques, car l'opinion publique pourrait être contre nous. J'ai accepté cet argument. Après tout, un entraîneur de l'URSS affrontait l'URSS. Bien sûr, j'ai expliqué à tout le monde que je suis un professionnel, que l'équipe que j'entraîne aujourd'hui est plus importante pour moi, mais le matin, je devais à nouveau rassembler l'équipe et expliquer que la composition que j'avais annoncée la veille serait modifiée. J'ai expliqué la raison au gars et je pense que j'ai trouvé de la compréhension. Lorsque le match a commencé, nous n'avons d'abord rien concédé et nous avons bien joué. Mais lorsque nous avons encaissé le premier but, l'équipe s'est un peu effondrée, tant et si bien qu'au final nous avons encaissé 4 buts. Bien sûr, il y a eu une certaine résonance, mais je peux dire honnêtement que nous n'avons jamais fait exprès de perdre le match face à qui que ce soit.
Ce n'est donc pas une légende que vous avez reçu un appel téléphonique de la part du président pour connaître la composition de l'équipe.
J'ai été approché plus d'une fois à ce sujet, car il était même inscrit dans mon contrat que je devais écouter les recommandations du conseil du président qui travaillait spécifiquement avec l'équipe nationale camerounaise. C'est grâce à ce conseil du président que Roger Milla a été sélectionné dans l'équipe nationale. Il a d'abord refusé. Puis lorsque les gens ont approché le président du Cameroun et qu'il a parlé à Milla, le joueur s'est mis à la disposition de l'équipe nationale.
Vous avez conduit le Cameroun en quart de finale de cette Coupe du Monde, un événement historique pour un pays africain à l'époque. Lors du match légendaire contre l'Angleterre, vous avez fait entrer Eugène Ekeke qui a marqué le deuxième but. Selon vous, qu'est-ce qui a manqué au Lion Indomptable pour se qualifier pour les demi-finales ? Y a-t-il quelque chose que vous regrettez aujourd'hui et que vous auriez pu faire à l'époque ?
J'ai souvent dit que le match contre l'Angleterre restera à jamais une épine dans mon pied. Je reconnais que c'est en grande partie ma faute et non celle des joueurs. Avant le match contre l'Angleterre, nous avions déjà remporté 3 victoires dans ce Mondial 90. 3 victoires, d'abord dans le groupe avec l'équipe nationale soviétique, la Roumanie, une équipe très forte à l'époque, et l'équipe nationale argentine. Ensuite, nous avons battu l'une des équipes vedettes, la Colombie. Pour être honnête, en interne, j'étais presque prêt à ce que nous ne battions pas l'Angleterre, même si je voyais bien que l'équipe anglaise n'était pas très forte. Il m'a été facile de préparer l'équipe camerounaise à ce match contre l'Angleterre parce que l'équipe anglaise a joué de manière prévisible et compréhensible. Compréhensible dans le sens où l'équipe anglaise travaillait bien sur les côtés, jouait bien en haut et avait un avantage sur nous à cet égard. Après des passes sur les côtés, les Anglais ont plus souvent récupéré le ballon et c'est ainsi qu'ils ont marqué leur premier but. Nous étions en train de perdre le match, mais après le premier but encaissé, les joueurs camerounais ont commencé à s'exciter et ont compris que nous devions agir exactement comme nous l'avions convenu avant le match, c'est-à-dire fermer les côtés, ne pas permettre de passe par là et forcer l'équipe d'Angleterre à attaquer dans l'axe. Et nous avons pris le contrôle du match et nous avons marqué deux buts. Mais ce qui était formidable avec Bobby Robson, le sélectionneur anglais, c'était sa tactique. Il m'a surpassé sur le plan tactique. En deuxième mi-temps, il a remplacé l'ailier Barnes, c'était un milieu de terrain très fort, et a ajouté un autre joueur dans l'axe. Les Anglais n'attaquaient plus sur les côtés, mais dans l'axe. Mais nous avions un sérieux problème. Les deux défenseurs centraux qui ont joué contre l'Angleterre, Koundé et Massing, étaient mes réservistes. La première paire, Victor Ndip et Jules Onana, plus jeune et plus rapide, a manqué le match à cause de carton jaune. En effet, comme j'ai dû les faire sortir contre les équipes nationales soviétiques et colombiennes, ils n'ont pas pu jouer. Et nous avons pris deux pénaltys après les attaques anglaises lorsque Lineker, une star anglaise et un joueur très rapide, a pris le ballon. S'est emparé des défenseurs centraux et qu'ils ont enfreint les consignes spécifiques à son égard. C'est pourquoi je pense que c'est ma grande erreur. Après que Bobby Robson a effectué les remplacements, j'aurais dû faire des ajustements aussi. Le fait est que sur l'aile droite, où Barnes jouait, j'ai fait jouer le capitaine de l'équipe, Steven Tatou, et c'est un joueur à vocation offensive. Lorsqu'il a vu que son côté était libre et que nous menions 2-1, il s'est lancé à l'attaque à plusieurs reprises. Au lieu de cela, il aurait dû garder le ballon de temps en temps ou se déplacer vers le centre. Ou alors je devais mettre quelqu'un d'autre dans la zone centrale. C'est-à-dire faire jouer trois défenseurs centraux. Peut-être libérer un joueur plus rapide comme Lineker. Je ne l'ai pas fait, et c'est ainsi que j'ai été puni. Dans le temps additionnel, nous avons pris un autre pénalty et nous avons perdu contre les Anglais. Je m'en veux, bien sûr, tout simplement. Certes, il n'y a pas de conditionnel dans le football, mais si j'avais fait des ajustements, peut-être que les choses auraient été différentes. Cela dit, je me rends compte que nous avons gagné trois matchs et que nous avons fait un si beau match contre l'Angleterre. Je pense que ce match contre les Anglais a été l'un des plus intéressants de ma carrière.
En mars 1990, peu avant la Coupe du Monde, l'équipe du Cameroun n'a pas réussi à se qualifier lors de la phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations en Algérie. Auriez-vous pu imaginer après cet échec que l'équipe camerounaise que vous dirigiez ferait une telle percée dans le football africain ?
La participation du Cameroun à la Coupe d'Afrique des Nations a également une histoire. Après avoir obtenu un billet pour la Coupe du Monde, j'ai eu une discussion assez sérieuse et approfondie avec le ministre de la Jeunesse et des Sports et le président de la Fédération camerounaise de football. À l'époque, la Coupe du Monde et la Coupe d'Afrique se déroulaient la même année. Conventionnellement, la Coupe d'Afrique avait lieu en février et mars et la Coupe du Monde en juin. Aujourd'hui, ces événements ont été séparés. Je leur ai dit qu'il n'était pas normal que nous participions à deux tournois avec à peu près la même équipe ou que nous entraînions les joueurs selon le même schéma. Il n'est pas possible d'amener une équipe au meilleur de sa forme, fonctionnelle et psychologique, sur une période aussi courte de février à juin. C'est pourquoi j'ai pensé que nous pourrions accorder un peu moins d'attention à la Coupe d'Afrique afin d'assurer une préparation de qualité pour la Coupe du Monde. Oui, il y a eu des discussions et des journalistes se sont disputés à ce sujet. Mais j'étais fermement convaincu que mon programme de préparation pour la Coupe du Monde était réaliste et correct. Nous en avons également parlé à nos joueurs. La moitié de l'équipe participait au championnat du Cameroun, tandis que l'autre groupe jouait en Europe. Et j'étais en contact permanent avec tous les joueurs pour leur indiquer quand ils devaient être en pleine forme. Dans le même temps, la saison de ceux qui jouaient dans des clubs professionnels se terminait en mai. Et je devais encore les remettre en forme pour juin. C'était une situation compliquée. En ce sens, je suis absolument confiant et peut-être que l'expression « fier de moi » n'est pas tout à fait appropriée, mais le fait que j'ai eu raison a eu un impact positif sur la Coupe du Monde. Nous nous sommes très bien préparés sur le plan fonctionnel. Nous avons joué à armes égales avec toutes les équipes, qu'elles soient sud-américaines ou européennes. Nous faisions jeu égal avec toutes les équipes, y compris sur le plan tactique. En ce qui concerne la psychologie, je peux vous assurer qu'il est très facile de travailler avec les Camerounais. Ils croient en eux et si vous entrez en contact avec eux, comme c'était mon cas, et s'ils ont confiance en vous, tout se passera bien. Je dois aussi remercier tout particulièrement le ministre de la Jeunesse et des Sports du Cameroun qui m'a soutenu. Il m'a dit « Quelles que soient les difficultés, nous serons avec vous jusqu'à la fin. La résonance n'a donc pas été très positive pour moi après la Coupe d'Afrique, c'est certain, mais je suis resté calme.
Parlons des événements récents. Lors de la dernière Coupe du Monde au Qatar, le Maroc a fait sensation en terminant 3e. À l'avenir, une équipe d'Afrique pourra-t-elle atteindre la phase finale de la Coupe du Monde et peut-être même soulever la Coupe du Monde au-dessus de sa tête?
Après avoir travaillé au Cameroun et en Afrique, j'ai vu le potentiel du continent. En 2002, le Sénégal a atteint les quarts de finale, réitérant ainsi notre exploit. Aujourd'hui, les Marocains ont réussi. J'ai l'impression que les joueurs africains sont bien sûr très talentueux et qu'ils aiment le football de tout leur cœur. Les équipes africaines d'aujourd'hui, comme celle du Cameroun, sont composées à 99% de joueurs évoluant en Europe. Ils jouent dans les championnats d'élite et dans des équipes d'élite. Le football africain a un énorme potentiel, mais qu'est-ce qui ralentit les choses? Tout d'abord, bien sûr, les dirigeants des fédérations n'ont peut-être pas la capacité d'assurer une formation stable. Je sais que de nombreux pays, dont le Cameroun, s'engage aujourd'hui à fond dans la formation des jeunes. Mais si vous faites attention, avant chaque tournoi important, il y a toujours des scandales avec des retards de paiement, etc. C'est une question de discipline professionnelle et tout simplement humaine. Les Camerounais aiment le football, vous ne pouvez pas imaginer le plaisir que les joueurs tirent du jeu lui-même. Mais il n'a pas encore été possible d'exploiter pleinement ce potentiel. Peut-être qu'à un moment donné, le Cameroun ou une autre équipe africaine aura encore plus de succès que le Maroc.
Dans vos interviews, vous avez dit que vous continuez toujours à suivre les performances de l'équipe nationale du Cameroun. Qu'est-ce qui, à votre avis, a empêché cette équipe de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde?
Avant la Coupe du Monde, la Russie a organisé la Coupe des Confédérations à Moscou et à Saint-Pétersbourg, si vous vous souvenez bien. Et j'ai été invité à une réunion avec l'équipe nationale du Cameroun. Il est vrai que les jeunes ont été très surpris lorsque je leur ai été présenté. Il était évident que la génération de joueurs avait déjà changé et que leur père avait peut-être joué dans mon équipe. À l'époque, l'équipe nationale camerounaise n'était pas très performante non plus. Lorsque je regardais l'équipe nationale jouer, je me disais que les Européens, s'ils entraînaient des Camerounais, les faisaient agir strictement selon le schéma et la structure du jeu. Je pense que c'est l'une des premières grandes erreurs. Les Camerounais doivent pouvoir créer. Bien sûr, le jeu défensif doit être strict et rapide. Mais lorsque l'équipe a le ballon, elle doit être plus créative. Maintenant, du fait que les joueurs sont devenus plus professionnels, en jouant en Europe, ils comprennent bien sûr mieux la structure du jeu. Mais mettre tout cela ensemble dans l'équipe crée une liberté de créativité, tout en jouant strictement, ce n'est pas encore possible. Et lors du dernier championnat, où l'équipe était dirigée par l'une des superstars, le joueur de l'équipe nationale camerounaise, Rigobert Song, lui-même, il semblait que tout aurait dû fonctionner, mais ça n'a pas été le cas. Un autre exemple est celui de l'équipe marocaine, également dirigée par une star marocaine. J'ai eu l'impression que les Camerounais faisaient en quelque sorte un travail qu'ils n'aimaient pas beaucoup. Mais dans l'équipe marocaine, les garçons étaient absolument libérés. Ils avaient la possibilité de faire leurs preuves, de montrer chacun leur potentiel. De plus, une équipe est créée lorsque tout le monde travaille comme un seul homme. Ce n'est qu'ainsi que nous pouvons réussir. Je le répète, les équipes africaines manquent souvent d'organisation et de discipline professionnelle. Mais en termes de potentiel en Afrique, vous pouvez certainement créer une équipe qui sera une force très redoutable.
Et comment évaluez-vous les chances d'élus indomptables à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2024 en Côte d'Ivoire?
Vous savez, il est très difficile de faire des pronostics. J'aimerais donc souhaiter bonne chance à l'équipe camerounaise. En ce moment, Eto'o, si j'ai bien compris, est à la tête de la Fédération camerounaise de football. C'est une superstar du football mondial. Et il aide beaucoup la fédération, comme je le sais. Et financièrement aussi. L'équipe du Cameroun est bien sûr l'un des leaders du football africain en termes de sélection et de qualité des joueurs, mais il faut de l'ordre et de la discipline. Je souhaite simplement que le succès soit au rendez-vous. Je ne cesse de penser à l'équipe nationale du Cameroun, je suis ses performances, et je m'inquiète toujours pour elle.
Ces derniers temps, la Russie n'a cessé de renforcer ses liens avec l'Afrique. Que peut apporter la Russie au continent africain en termes de développement du football? Et quelles perspectives voyez-vous dans ce domaine?
Vous savez, je suis une personne du passé, de l'Union soviétique. Et je peux dire qu'à l'époque soviétique, l'URSS avait une très forte influence sur le sport en Afrique. En fait, des spécialistes de l'Union soviétique ont été envoyés en Afrique. Lorsque je travaillais avec l'équipe nationale de football du Cameroun, il y avait un entraîneur soviétique de l'équipe du volleyball du Cameroun, un entraîneur soviétique de l'équipe de handball du Cameroun et un entraîneur soviétique de l'équipe de boxe du Cameroun. Les spécialistes de l'URSS ont été très appréciés. Par ailleurs, en Afrique, les infrastructures et les moyens financiers étaient bien sûr très inférieurs à ceux de l'Europe. Mais il était possible d'organiser le sport des enfants et des jeunes au Cameroun en suivant le modèle soviétique. Et à l'époque de l'URSS, l'école d'entraînement soviétique était reconnue dans le monde entier. Ensuite, nous avons commencé à enseigner le football en utilisant le système néerlandais, puis le système brésilien, puis le système anglais. Mais à mon avis, nous avions notre propre formation de très haute qualité, y compris des entraîneurs qui travaillaient dans le football des jeunes. Une autre chose est qu'auparavant, en URSS, la profession d'entraîneur des enfants était prestigieuse. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. En Afrique, je pense que si vous organisez tout d'un point de vue qualitatif, c'est l'Eldorado. Il y a beaucoup de talent là-bas. Nous pourrions donc venir, aider, donner des conseils, mais je ne suis pas sûr que tout puisse être résolu aussi rapidement.
Bien que le sport doive idéalement rester en dehors de la politique, on assiste à une politisation flagrante dans le domaine, y compris dans le football. Que pensez-vous de la politisation du sport? Y a-t-il quelque chose que vous puissiez faire pour la combattre?
Quand on dit que le sport est en dehors de la politique, ce ne sont que des slogans. Dans la Grèce antique, quand il y avait les Jeux olympiques, toutes les guerres s'arrêtaient. En 1980, j'étais au championnat du monde en Espagne, parmi les spécialistes soviétiques en activité. À cette époque, il y avait un conflit entre l'Argentine et l'Angleterre, la guerre des Malouines. Mais le championnat s'est poursuivi. Les joueurs ont joué et personne n'a pu punir qui que ce soit. Aujourd'hui, la situation a changé. Quand des athlètes sont suspendus pour dopage, je peux le comprendre. Mais quand des participants aux Jeux olympiques et paralympiques sont suspendus à cause des événements entre la Russie et l'Ukraine, je ne peux pas le comprendre du tout. La politique a toujours été présente dans le sport, mais elle n'était pas aussi dominante auparavant. Aujourd'hui, toutes les fédérations internationales sont subordonnées à ceux qui paient. Si nous parlons du Comité olympique, il s'agit d'une organisation à but lucratif qui fait de l'argent, tout comme la FIFA. Ce sont des organisations commerciales qui ne peuvent gagner de l'argent que si quelqu'un au sommet les finance. La politique a donc été, est et sera présente. Mais je suis contre la politisation du sport. J'ai travaillé dans un pays, dans un autre, dans un troisième, et partout tout allait bien. Tout le monde comprenait que j'étais impliqué dans le football et cela n'empêchait personne de se développer. Aujourd'hui, la situation a radicalement changé. Aujourd'hui, on ne peut pas imaginer qu'un entraîneur moscovite soit invité à travailler en Hollande, en Espagne ou ailleurs. Donc malheureusement pour moi, la politique est en train de ruiner le sport. Il ne fait aucun doute que la situation actuelle est encore pire que celle qui prévalait pendant la guerre froide. Nous avions l'habitude de gagner en crédibilité grâce à notre travail. Par exemple, lorsque je travaillais dans un club en Corée du Sud, les gens venaient me confier qu'ils, les Coréens, pensaient beaucoup de mal des Soviétiques. Mais lorsque les joueurs russes ont commencé à jouer dans ce club, même les dirigeants ont changé d'avis. Au Cameroun, par exemple, l'ambassadeur soviétique m'a averti que j'étais dans une situation très difficile parce que le football était le sport numéro un dans ce pays. Et bien que l'ambassade m'ait aidé, j'ai eu des difficultés. Mais à la fin de la Coupe du Monde 1990, lorsque nous avons été reçus par le président du pays, il m'a dit que j'avais fait plus en 2 ans que ce qu'ils avaient fait au Cameroun en 10 ans. Nous changeons les attitudes à notre égard.
Vous êtes toujours très respecté et on se souvient de vous au Cameroun et dans d'autres pays africains. Quel conseil donneriez-vous à la jeunesse africaine d'aujourd'hui?
Après le Cameroun, j'ai travaillé dans plusieurs autres pays et je vous assure que c'est mon travail au Cameroun qui m'a rendu connu dans ces pays. Et je comprends que mon travail, comme celui d'autres spécialistes russes et soviétiques à l'étranger, a des connotations politiques. Je comprends que nos relations avec les pays africains aient fluctué d'étroite à moins étroite. Ma petite fille est diplômée de l'Institut de l'Amitié des Peuples de Moscou. Elle a assimilé ce multiculturalisme et s'est beaucoup liée d'amitié avec des personnes originaires d'Afrique et d'Asie. Sa génération a déjà une compréhension des relations entre les pays différentes de la nôtre. Nous sommes les pionniers de ces relations. Je me rends compte maintenant que le monde est petit, tellement petit. Après avoir travaillé en Afrique et en Asie, je me rends compte que les gens sont les mêmes partout. La jeunesse africaine en particulier aime le sport. C'est l'un des outils qui leur permet de faire leurs preuves, tant sur le plan humain que, si l'on veut, sur le plan financier. C'est pourquoi mon souhait le plus cher est que tous ceux qui se consacrent au sport, qu'il s'agisse de football, d'athlétisme ou d'autres choses, réussit. Mais pour cela, il faut travailler dur. Et pour travailler dur, il faut une discipline interne. Bonne chance à tous, bonne chance, je vous aime tous.
C'était Valéry Nepomniachtchi, entraîneur soviétique du Cameroun lors de la Coupe du Monde 1990, en exclusivité pour Sputnik Afrique. Il est revenu sur le parcours historique réalisé par sa sélection durant le tournoi et a livré les secrets qui se cachent derrière cet exploit. Il a ensuite eu un mot pour la jeunesse africaine à qui il a souhaité la réussite dans leur projet sportif. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, Sputnik Afrique, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, Anthony Lefebvre, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle émission. Je vous invite à consulter notre site internet pour suivre l'actualité africaine et internationale. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Maliba FM, à vous l'antenne.
Zone de contact, une émission de Sputnik Afrique.